VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Égypte, la Cour de cassation a confirmé ce mardi la peine de mort prononcée contre 13 membres d'un groupe islamiste accusé de meurtre d'officiers des forces de sécurité et d'attentat à la bombe. Les accusés avaient été condamnés en décembre 2017 par un tribunal de Gizeh pour appartenance à Ajnad Misr. Les soldats de l'Égypte, un groupe officiellement lancé en janvier 2014 et auteur de nombreuses attaques ayant ciblé des militaires, des policiers et des magistrats au Caire. La décision de la Cour de cassation s'applique également à d'autres membres du groupe condamnés et aussi en décembre 2017, dont 17 à la prison à perpétuité, 2 à 15 ans et 7 à 5 ans de détention. 5 personnes avaient été acquittées. Arrivé au pouvoir en 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi a fait de la stabilité et de la lutte antiterroriste son cheval de bataille. Contestation au Soudan voisin, au moins 90 personnes ont été tuées au Soudan depuis le début des manifestations qui ont coûté le pouvoir au président Omar al-Béchir. C'est ce qu'a indiqué un comité de médecins lié au mouvement de contestation. Plus de détails avec Irénée Herman Umbo.
Ce bilan dépasse celui publié par les autorités qui ne font état que de 65 morts à ce jour. Le comité de médecins membres de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, précise dans un communiqué que le premier décès a été enregistré le 20 décembre au cours d'un défilé dans la ville d'Atbara dans le centre. C'est dans cette ville qu'ont eu lieu les premiers rassemblements contre la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Cette association de médecins affirme avoir depuis documenté 90 cas de martyrs tués par les forces de sécurité. Le dernier cas recensé est celui d'un manifestant mort dimanche des suites de blessures subies à Niala, la capitale de l'état du Darfour Sud dans l'ouest du Soudan. Le comité dit avoir établi la liste des 90 morts à partir de sources fiables et malgré les restrictions imposées par les forces de sécurité et les vestiges du régime.
Relations États-Unis-Congo-Brazzaville, Washington va soutenir le programme de relèvement consacré à la reconstruction du pôle qui vise à aider les populations de cette région proche de la capitale à réaliser des projets de développement durable. Déclaration faite par la directrice Afrique centrale du département d'État américain Melanie Higgins à Brazzaville où elle effectue une visite de travail. Le point avec notre correspondant sur place Arsène Séverin.
C'est à l'issue d'une réunion avec Antoinette Dinganjodo, ministre en charge de l'action humanitaire, que Melanie Higgins a annoncé la disponibilité des États-Unis à accompagner le Congo dans la reconstruction du pôle. Les États-Unis félicitent le gouvernement pour avoir maintenu 18 mois de paix dans le pôle, a affirmé la directrice Afrique centrale du département d'État américain. Actuellement, les États-Unis sont en train d'identifier les projets de développement durable qu'ils vont directement financer dans le pôle, a-t-elle ajouté. Un soutien qui vient à point nommé car les autorités sont à la recherche de partenaires financiers pour réaliser le programme de relèvement récemment lancé dans le pool où plusieurs villages et des infrastructures publiques ont été détruits lors des dernières violences armées. L'ambassadeur des États-Unis au Congo, Todd Haskell, a été l'un des premiers diplomates en poste à Brazzaville à avoir accédé dans le pool alors que le cessez-le-feu entre les forces armées et les miliciens ninja n'avait pas encore été effectif. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, deux assassins présumés de deux experts de l'ONU tués en RDC en 2017 se sont évadés dans la nuit de lundi à mardi de la prison centrale de Kananga dans le centre du pays. Des tirs nourris ont été entendus ce matin à l'aube dans le quartier où est située la prison de Kananga dans la province du Kasaï central. Les deux experts de l'ONU, la Suédoise d'origine chilienne Zaïda Catalan et l'Américain Michael Sharp, ont été assassinés le 12 mars 2017 au Kasaï où ils enquêtaient sur des forces communes dans le cadre d'un conflit armé. Ouvert le 5 juillet 2017, le procès de leurs assassins présumés est toujours au stade de l'instruction. 14 personnes au total font l'objet de poursuites. RDC toujours, l'opposant congolais Moïse Katumbi a annoncé lundi son retour le 20 mai dans son fief de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga dans le sud-est du pays. Objectif, selon un communiqué, empêcher les partisans de l'ancien président Joseph Kabila de modifier la constitution nationale après 3 années passées en exil. L'opposant a régulièrement annoncé son retour en RDC, mais cette nouvelle promesse se fait dans un contexte où le tout nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, a succédé à Joseph Kabila comme président. En outre, le passeport congolais de M. Katumbi lui a été délivré et une condamnation à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière a été annulée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élections en Afrique du Sud, près de 26 millions de Sud-Africains sont attendus mercredi aux urnes pour les élections générales du 8 mai 2019. Les derniers sondages accordent à l'ANC au pouvoir entre 50 à 61% de suffrages, très loin devant ses principaux rivaux. Depuis 2014, l'ANC est majoritaire à l'Assemblée. Il compte 249 députés sur 400. Et pourtant, le Congrès national africain de Nelson Mandela traverse une crise sans précédent. Les nombreux scandales et l'incapacité du gouvernement à redresser l'économie ont fortement écorné l'image de l'ancien mouvement de la lutte anti-apartheid. Patricia Huon vient de suivre le dernier grand meeting de campagne de l'ANC à Johannesburg. Son reportage.
Dans le stade d'Ellis Park à Johannesburg, devant une foule vêtue des couleurs jaune, noir et vert de l'ANC, Cyril Ramaphosa tenait dimanche son dernier grand meeting de campagne dans la capitale économique du pays. Une opportunité pour le chef de l'État réaffirmer sa volonté d'incarner une nouvelle image du parti au pouvoir depuis 1994.
Nous acceptons les critiques qui nous ont été faites. Nous admettons que nous avons fait des erreurs et nous disons sans équivoque que nous sommes maintenant prêts à servir le peuple sud-africain.
De nombreux scandales de corruption ont entaché l'image de l'ANC, mais selon les sondages, malgré les critiques, le parti est presque certain de sortir vainqueur de ce scrutin national et de conserver sa majorité au Parlement. Cyril Ramaphosa, qui tient son mandat des députés, sera alors assuré d'être reconduit à la tête de l'État. Parmi les militants venus à Ellis Park, beaucoup voulaient encore croire à une nouvelle ère grâce à ce nouveau leader qui a succédé à Jacob Zuma.
Il peut éradiquer la corruption. Oui, je pense que Ramaphosa peut faire ça. Je crois en l'ANC. L'ANC a toujours été là pour nous. Donc pourquoi laisserais-je tomber l'ANC? Je ne peux pas faire ça. Si les individus sont corrompus, il faut s'en débarrasser. Mais l'ANC reste le parti du peuple.
La lutte contre la corruption est l'une des principales demandes des électeurs, mais l'autre grand défi de Cyril Ramaphosa sera la relance d'une économie qui se porte mal et la lutte contre le chômage et les inégalités qui rongent toujours le pays. Une tâche qui ne sera pas facile, estime l'analyste politique indépendant Daniel Silke.
C'est une élection critique pour l'ANC. Le vote pour le parti s'érode de manière exponentielle à chaque élection. Il y a une frustration, pas seulement par rapport à la corruption, mais aussi à la faible performance économique. C'est peut-être la dernière chance pour l'ANC d'essayer de changer les choses.
Le parti reste aussi profondément divisé et l'influence d'anciens alliés de Jacob Zuma limite la marge de manœuvre de Cyril Ramaphosa pour imposer des réformes. À l'issue de cette élection, c'est au sein de l'ANC qu'un nouveau rapport de force se jouera. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Moyen-Orient maintenant. Les États-Unis accélèrent l'arrivée en mer d'Oman du porte-avions et groupe aéronaval USS Abraham Lincoln après des préoccupations selon lesquelles l'Iran préparerait une attaque contre des cibles américaines ou alliées. Les précisions de Jean-Roger Lyon.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit à la presse hier, nous continuons de voir des activités qui nous font croire qu'une escalade pourrait avoir lieu. Nous prenons donc toutes les actions appropriées quant à la bonne posture de sécurité et à notre capacité à présenter un vaste éventail d'options au président si quelque chose venait à se passer, a expliqué le chef de la diplomatie américaine. Selon le journaliste israélien Barak Ravid, les services de renseignement israéliens ont récemment averti Washington de possibles projets d'éléments iranien visant une cible américaine dans le Golfe ou des alliés des États-Unis comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Notre confrère israélien estime que l'Iran cherche ainsi à réagir à la campagne de pression maximale de l'administration Trump qui veut forcer Téhéran à changer de comportement dans la région.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. www.voaofrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.